Donc le thème de ce matin est intitulé La femme en œuvre pour le salut de sa famille et le salut de sa société. Nous voulons qu'à la fin de notre message, que chacun de nous retrouve sa place et la femme ou la jeune fille en particulier se demander si vraiment elle est en œuvre pour le salut de sa famille et pour le salut de la nation entière. Vous savez, actuellement, c'est comme si le diable aussi sait que s'il détruit la famille, c'est que c'est toute l'Église qui est détruite, c'est toute la société qui est détruite. Parce que la famille, c'est le noyau même de l'Église, c'est le noyau aussi de la société. Il n'y a pas de société sans famille, il n'y a pas d'église sans famille, parce que l'église rassemble toutes les familles. Alors, si le diable trouve dans la famille une place, il y a des comportements qui s'observent. Vous serez d'accord avec moi qui a des parents qui ne rient jamais avec leurs enfants. Quand papa entre dans la maison, on est comme si on est dans une salle de classe où quand les profs entrent, on doit les saluer par le fait de se mettre debout, encore ça parler. Vous essayez de bouder, vous sautez. Il y a des familles pareilles, quand papa entre, c'est le calvaire qui commence. On a peur, même sa femme a peur d'approcher son mari à cause de son comportement. Et la maison devient comme si c'est un terrain de foot où on doit voir qui a gagné, qui a été vaincu. Et chacun dans la famille a maintenant des fanatiques qui jugent, qui disent non, c'est celui-ci qui avait tort, c'est celui-ci qui avait raison. Alors, le diable, quand il trouve la place dans nos familles, il gagne nos cœurs et l'Église constitue maintenant beaucoup d'hypocrites, et quand nous sommes à l'église, nous nous ressemblons tous, mais quand nous retournons à la maison, ça devient le calvaire. À l'école, j'ai souvent observé des enfants qui tremblent quand c'est la fête des cours. Pour les autres, quand on siffle, c'est la joie. Mais pour certains, il a peur de rentrer à la maison parce qu'il trouve que papa, c'est un chant. Papa, c'est un chien vraiment difficile à aborder. Or, dans les plans de Dieu, créer la famille, Dieu pensait que ça sera un terrain vraiment du repos. Quand il crée l'homme et la femme, tout au début, tout a marché. Mais quand le péché est entré, on a commencé à s'accuser l'un l'autre. Quand ça ne va pas, c'est quand il y a maintenant des accusations qui commencent. Celui qui avait dit, celui qui s'était exclamé en disant cette fois-ci, celle-ci c'est l'os des maisons. Mais quand il y a un problème, il dit, Seigneur, voilà la femme que tu m'as donnée. Il oublie qu'il s'était exclamé quand il avait accueilli la femme dans sa maison. Alors, c'est à cela que notre département des femmes, connaissant la place favorable que Dieu a donnée à la femme, c'est dit, vraiment nous devons rappeler encore à cette femme ce à quoi elle est appelée. Parce que c'est comme si il y a des mamans qui oublient leur place dans la maison. Dieu a été le premier à nous donner une place favorable quand il nous a appelés secours. Et dans la Bible, il utilise le mot ézer alors que lui-même est notre secours. Et cela s'est concrétisé aussi par la nomination d'Adam quand il appelle sa femme Ève, qui veut dire vie. Elle est la porteuse de la vie de l'humanité. Alors, toute femme ne devrait pas oublier que même si la société ne te donne pas de place, même si ton mari oublie ta place, même si tes enfants oublient ta place, mais Dieu t'a déjà donné une place favorable. Et c'est à toi de bien garder cette place. Alors, comme Dieu soutient toujours la vie, Il protège la vie. Il est le premier à protéger la vie. L'histoire de la naissance de Moïse, ça commence par des travaux pénibles, par une servitude. Ça commence par la douleur de mettre fin à la vie. Alors le livre d'Exode vient aussi apporter l'essence de la vie. L'essence de la vie que nous trouvons en Jésus-Christ qui réapparaît maintenant dans le Nouveau Testament comme le nouveau Moïse. Alors Moïse étant considéré comme le sauveur d'Israël de ses travaux pénibles, il naît dans un contexte où la vie n'a pas de sens pour les garçons. Si vous lisez le premier chapitre, on nous dit que après la mort de Joseph, il y a eu un nouveau pharaon qui n'a pas connu Joseph et qui n'a pas connu la renommée de Joseph. Il a vu le peuple d'Israël en train de se multiplier et il a ordonné la loi selon laquelle si un enfant naît garçon, il faut qu'il soit directement tué à sa naissance. Et il a choisi deux femmes, deux sages-femmes parmi les Hébreux, celles qui peuvent aider les femmes des Hébreux pour l'accouchement. Il leur a donné l'ordre de tuer tout enfant qui naît mâle. Alors la Bible nous dit que ces femmes ont eu la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas eu la crainte de la loi, mais ils ont eu la crainte de leur Dieu. Et à chaque fois que les enfants mâles naissaient, elles ne les tuaient pas. Et le pharaon est venu demander à ses femmes pourquoi ce peuple continue à se multiplier. Et pourtant, je vois encore des garçons qui sont en train de grandir depuis que j'ai ordonné de les tuer. Alors, ils ont dit, vraiment, les femmes des Hébreux ne sont pas comme des Égyptiennes. Elles accouchent avant que la sage-femme n'arrive. Alors il a changé, il a dit, alors nous allons chaque fois jeter ses enfants dans le fleuve Nil alors. Alors Moïse est né quand on doit jeter maintenant les enfants garçons dans le fleuve. Et au premier verset, on ne nomme pas ses parents, mais si vous lisez Exode chapitre 6 verset 20, vous allez trouver que son père est nommé là-bas, c'est Amram, qui a épousé sa tante, ce qu'on appelle Jochebed. Alors, après l'accouchement, au verset 2, on nous dit que la femme a vu que son enfant était beau. Alors, quand j'étais en train de réfléchir sur ce verset, je me disais, est-ce qu'elle avait caché la femme parce que la femme était beau? Est-ce que la femme a déjà été mal aux yeux de sa maman? Est-ce qu'il y a une femme qui a déjà mis au monde un enfant qui n'est pas beau? Dans ma langue, on dit que même si c'est un idiot, ça t'appartient, c'est ton idiot. Alors, ce n'est pas à cause de la beauté de Moïse que la femme a résolu cacher la femme, mais c'est à partir de cette affection qui unit la femme à sa mère qu'elle a admiré son enfant et elle a commencé à se poser des questions. En regardant son enfant, elle se dit en elle-même, donc cet enfant, bientôt, elle sera jetée dans les Nil. Si tu te remets dans la peau de cette femme, tu trouves que ça te serait aussi difficile. C'est difficile à une mère de voir son enfant être tué. Même le simple fait de frapper la femme, il y a des mamans qui ne supportent pas ça. Alors, la femme a résolu de cacher tout d'abord l'enfant pendant 3 mois. Je ne sais pas quel mécanisme elle a utilisé, parce qu'au même moment, les Hébreux étaient exposés à des travaux pénibles. On ne sait pas comment elle a assumé ces travaux, au même moment, protéger son enfant pendant 3 mois. Et comme pendant 3 mois, elle ne pouvait pas continuer à cacher l'enfant, l'enfant doit pleurer aussi. Et les voisins doivent entendre les cris de l'enfant. Il a été difficile pour cette maman de continuer à cacher l'enfant. Elle a résolu de fabriquer une caisse Elle a mis la femme dans la caisse et est allée au bord du fleuve et elle a déposé la caisse au milieu des roseaux qui sont autour du fleuve. Alors, elle a laissé sa fille Myriam à côté de la femme pour voir ce qui va arriver. Et la Bible nous dit que c'est alors que la femme du Pharaon est descendue au fleuve pour aller se baigner. C'est comme si c'était comme au village, pour se baigner à la rivière. Arrivée là, après les belles, se sont promenées, telles que les versets nous le disent, au verset 5. Alors, elle s'est promenée avec ses compagnes, elle a vu la caisse. Elle a demandé à sa servante, à l'une de ses servantes, d'aller prendre la caisse. Elle a ouvert et la femme était en train de pleurer. Quand elle a aussi regardé le bébé, bon, c'est facile aussi de distinguer la figure d'une fille et d'un garçon. Elle s'est dit en elle-même, une égyptienne ne peut pas jeter un enfant. Donc cet enfant doit être un enfant des Hébreux. Alors, le pleur de cette affaire a touché le cœur de la fille de Pharaon. Et la sœur qui était là est venue avec sagesse demander est-ce que je peux te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice. Elle a dit va. Et elle a amené sa mère. Elle n'a même pas montré que c'était sa mère. La maman aussi qui fait semblant. Et on lui propose un boulot d'allaiter la femme. Parce qu'elle aura un salaire. Elle fait aussi semblant. Elle prend la femme, elle commence à allaiter la femme et au même moment, elle reçoit son salaire. Quand j'étais en train de penser à ce verset, j'ai trouvé que vraiment Dieu est formidable pour ceux-là qui le craignent, pour ceux-là qui ont le désir de protéger la vie. Avoir le salaire à partir de ton enfant. Quel miracle! Je crois qu'elle a été exemptée de ses travaux pénibles. C'était aussi un gras salaire. Quand les autres sont réveillés, je ne sais pas, à 3h du matin pour commencer à transporter la paille, elle est à côté du bébé, de la fille du Pharaon, qui était au même moment son propre fils. Nous trouvons parfois des mamans qui s'agitent à cause des enfants. Une fois si la femme pleurait toute la nuit et que papa à côté a continué à ronfler, ça devient un grand problème. Pourquoi toi tu as continué à dormir alors que la femme était en train de pleurer? Je crois que nous n'avons pas raison, mais aussi en quelque sorte, ce papa Amram a été aussi son épouse. Je ne pense pas que la femme puisse fabriquer seule la caisse dans laquelle on va déposer la femme. Elle avait en même temps peur. Peut-être qu'elle a été aussi accompagnée par son mari. Mais jusque-là, le texte veut nous montrer que tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, que ce soit nos travaux à la maison, si c'est pour la gloire de Dieu, nous n'allons pas nous fatiguer avec, mais nous aurons toujours notre salaire. Nous devons continuer à supporter les caprices de nos enfants. Je trouve que cette femme méritait vraiment ce salaire. Parce que concevoir dans un contexte où on doit tuer l'enfant, tu ne sais pas si l'enfant va naître fille ou garçon. Elle avait des inquiétudes tout d'abord pendant sa grossesse. Elle supporte et les caprices du bébé, mais aussi l'émotion, la frustration de ce qui se passe autour d'elle. Après la naissance, je crois que ce n'est pas facile de cacher la femme. On ne sait pas si quand la femme voulait pleurer, elle pouvait mettre des bagnes dans sa bouche pour que la voix ne ressorte pas. Je ne sais pas vraiment comment elle a su gérer ces cas difficiles. Et après la naissance, il y a toujours des comportements que les enfants affichent, difficiles à supporter. Mais quand nous les supportons pour la gloire de Dieu, ça ne reste pas sans résultat. Ça nous apporte toujours des résultats. Nous trouvons aussi que la sœur de Moïse, en restant quelque part, voir ce qui va arriver à son petit frère, ce n'était pas aussi facile. On te laisse au bord du fleuve seul. Tu observes l'enfant, tu surveilles l'enfant. Je me dis, où trouver ces filles-là qui ont ce cœur de surveiller leurs enfants à la maison? Il y a de ces filles qui surveillent bien nos enfants quand nous sommes là. Mais juste à la sortie, l'enfant reçoit des coups. Si c'est la maman qui a choqué la fille, tout retombe sur l'enfant. Elle épuise sa colère sur le bébé. Vous laissez même le lait pour l'enfant, c'est elle qui prend le lait du bébé. Est-ce que ce ne sont pas des réalités que nous vivons? Mais ceci, la question reste à se poser. Et maman aussi, nous aussi les mamans, il y a des fois où nous ne voyons pas aussi ce que nos filles sont en train de poser comme beau acte dans nos maisons. Nous ne voyons que leur côté faible. Et c'est pour cela qu'elles continuent à déverser leur colère sur nos enfants. Maman nous a dit dans son remerciement que la cuisine c'est notre bureau. Mais il y a des mamans qui ont démissionné de leur cuisine. Et elles sont les premières à critiquer la sauce qu'a fait sa fille, alors qu'elle a déjà démissionné. C'est aussi un problème. Chacun doit rester à son poste. Chacun doit voir ce qui est sa responsabilité dans la famille pour que nous puissions protéger nous tous la vie dans nos familles. Parce qu'aux yeux de Dieu, la vie est chère. Dans ce texte, nous trouvons aussi la fille de Pharaon. Elle est hautement placée. Elle avait aussi un dernier mot. Je me dis qu'est-ce qui a retenu cette fille à jeter l'enfant dans le fleuve. Parce que l'ordre était donné par son père. Mais elle a compris que devant mon père, je peux m'exprimer. Je peux défendre ce bébé devant mon père. Et elle a sauvé cette vie. Peut-être que chez toi, tu es la fille propre de la famille, mais il y a aussi d'autres filles qui restent dans la maison. Comment tu les défends chez ta maman? La maman, quand elle n'apporte que des jupes pour toi seule, qu'est-ce que tu fais pour plaider aussi la cause de ta soeur avec laquelle tu restes dans la maison? Il y a des enfants de la maison qui ont l'horaire qu'après coup, on doit passer au lit pour dormir, se reposer d'abord. Mais vous étiez à l'école avec celle-là, et pourtant elle est passée directement à aller chercher de l'eau. Qu'est-ce que tu fais pour plaider aussi sa cause? Autour de nous, il y a toujours des gens qui pleurent, mais nous n'avons pas des yeux pour voir ceux qui sont autour de nous, qui sont en train de pleurer, qui ont besoin de notre soutien. Ici, il y a des professeurs de l'université. Il y a des étudiants qui pleurent à leur côté. Peut-être que c'est vous qui avez les derniers mots pour sa réussite. Là, je ne parle pas de la corruption. Mais il y a des enfants, vous voyez que vraiment, ils s'étaient efforcés, ils pouvaient monter. Mais on casse. Chacun doit voir quel pouvoir il a. Là où il reste et comment il peut aider celui-là qui est en train de crier à ses côtés. Parce que Dieu est prêt et il est favorable à celui qui veut protéger vraiment la vie. Quand nous avons aussi continué avec la lecture, à partir du verset 11 jusqu'à 14, nous trouvons maintenant Moïse qui est devenu grand. Il s'est promené, vous savez, lui, il a grandi dans la maison du Pharaon. Et ce jour, il est sorti voir ses frères hébreux, parce que sa maman lui avait déjà raconté qu'ils sont aussi des hébreux. Alors, quand il est sorti, il a vu que vraiment les hébreux sont en train de subir, ils sont exposés. Alors, il a vu un égyptien se battre avec un hébreu. La Bible nous dit qu'il est monté sur. Il s'est jeté directement sur l'égyptien et l'a frappé et il est mort. Ce n'est pas le fait de tuer L'Égyptien qui nous intéresse dans ce texte, mais c'est ce cœur-là de pitié. Dire comment mes frères peuvent être exposés comme ça pour ces travaux lourds. Et ça l'a choqué. Et il était en train de commencer maintenant sa mission de sauver le peuple sans le savoir. Nous avons des enfants pour qui les parents sont en train de souffrir. Ils sont en train de vous cacher par des conseils. Ils sont en train de vous cacher par des prières. Ils sont en train de vous cacher par le fait même de vous payer les études. Là, c'est le fait de vous cacher contre tous les risques. Mais vous n'acceptez pas aussi être... Vous n'êtes pas facile aussi pour être caché. Vous devenez indifférent, on vous met dans la caisse, mais vous voulez toujours sortir, faire montrer la tête. Les enfants sont en train de se démener pour vous, mais ce ne sont pas eux qui vont consommer les fruits, mais c'est vous-même. Si les parents vous forcent d'aller à l'école, ce que tu vas gagner, c'est à toi seul, avec ton épouse que tu auras, avec tes enfants, avec ton mari. Le parent n'a rien à faire avec ton salaire quand tu l'auras, mais il est en train de préparer ton avenir. Mais comment toi aussi tu réponds à ces pénibles travaux de tes parents? Nous ne sommes pas épargnés de ces termes, nous tous nous nous retrouvons dedans. Parce que chacun à son côté doit voir comment il est en œuvre pour le salut de sa famille. Ce n'est pas seulement le salut spirituel, mais le salut physique. Tu veux que maman, après avoir quitté le boulot, qu'elle aille encore faire des travaux quand tu es là. Nous devons nous épargner même dans nos maisons. Maman peut crier, maman peut pleurer à tes côtés, mais tu fais semblant de ne pas écouter ces cris. Il y a des cris à côté de nous, partout où nous sommes. Mais nous devons vraiment répondre que ces cris touchent nos cœurs. Alors, nous trouvons aussi en matière la femme des Zébédée qui pleure de la cause de ses enfants, qui négocie des places d'honneur, des places d'autorité pour ses enfants. Alors, même si elle ne savait pas le sens profond de ce qu'elle est en train de demander, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'elle avait ce désir-là de voir ses enfants encadrer Jésus, parce qu'il savait que Jésus, c'est le Messie qui va régner avec gloire. Il y a de ces parents-là, quand les jeunes refusent d'aller au culte, ce n'est pas un problème qui la préoccupe ou qui les préoccupe, mais notre désir serait de voir nos enfants être à côté de Dieu dans sa gloire. C'est ce qui serait la prière de tous parents. Parce qu'en Éphésiens, on dit que nous étions morts de péché, mais Dieu nous a ressuscités ensemble avec lui, afin de régner ensemble avec lui dans sa gloire céleste. Tu vas maintenant prier pour toi-même et dire, dans l'œuvre du salut, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu es un jeune garçon. Au lieu de sauver la fille de ta voisine, tu la dévierges. Est-ce que c'est ça, écouter les pleurs? Nous devons avoir pitié les uns pour les autres. Toi, fille, qu'est-ce que tu es appelée à faire dans ta maison? Maman, qu'est-ce que tu es appelée à faire? Les papas ne sont pas épargnés. Et étant comme des responsables de famille, est-ce que tu mérites d'être appelé vraiment responsable de ta famille? Qu'est-ce que tu assumes comme responsabilité pour qu'on te respecte en tant que père de famille? Chacun va prier pour que Dieu le montre là où il est encore distrait, il n'est pas en train de s'élever, il est en train de voir ses frères s'entretuer, ses frères se battre, mais il a pitié parce que chez lui, tout va bien. Chez le Pharaon, tout va bien. Mais Moïse a accepté de laisser cette richesse, de laisser tout pour le salut de son peuple? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser pour le salut de tes frères, même dans ta propre maison? Céder même un pantoufle à ton petit frère, ça te coûte les yeux du caméléon. Le simple pantoufle, le fait que vous vous battiez, vous vous donniez des coups dans la maison. Le fait que tu as vu ta soeur porter ta jupe, ça devient un grand problème qui doit attendre les parents pour le jugement.
Que Dieu bénisse sa parole.